journal de Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Des brigades régionales chargées d'assurer la sécurité des lycées d'Île-de-France, le dispositif est opérationnel aujourd'hui. Rendez-vous décisif pour Emmanuel Macron avec les Français, après avoir fait monter les attentes. Il dévoilera ce soir ses réponses au grand débat et la crise des gilets jaunes, et en particulier sur ce qu'il compte faire sur la démocratie et la citoyenneté. À l'étranger, la guerre civile en Libye, au moins 121 morts en 10 jours d'affrontement au sud de la capitale libyenne, Tripoli. Ça groove, ça danse, ça swing. Nouvel album d'Anderson Paak à la fin de ce journal.
Guillaume Poupard, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et je vous le rappelle, l'invité d'Alexandra Ben Saïd dans 20 minutes à 7h50.
France Inter.
Et donc, Laurence, des brigades de sécurité dans les lycées en Île-de-France, le dispositif est lancé.
Et il sera censé répondre aux incidents survenus dans plusieurs établissements scolaires ces derniers mois. Hier encore, un adolescent a été mis en examen pour avoir agressé une enseignante avec un pistolet à billes jeudi dernier. Ces trois équipes de sécurité sont composées de 5 agents non armés, sachant que ces équipes viennent en appoint d'un autre dispositif du même genre déjà déployé par l'Éducation nationale depuis 2009. Cette fois, c'est la région Île-de-France, présidée par Valérie Pécresse, qui prend en charge financièrement ce personnel capable de sécuriser les établissements si les proviseurs le demandent. L'une de ces brigades s'est installée depuis une semaine au lycée Bartholdi, lycée professionnel de Saint-Denis, et noué le contact avec les élèves. C'est le reportage de Béatrice Duguay.
La seule présence de Mamadou peut être dissuasive dans l'établissement.
1m94.
Avec les kilos qui vont avec.
Aussi, c'est vrai que ça calme.
Mais ce colosse, spécialiste de la protection des personnalités, compte bien dépasser le cliché.
Les jeunes ont besoin de parler, les jeunes ont besoin de se sentir protégés au sein de l'établissement et non pas de se dire tous les matins je vais à l'établissement mais qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui.
Oui, parce qu'on n'est jamais tranquille quand ils vont à l'école.
Fouzia est la maman d'un étudiant en menuiserie au lycée Bartholdi.
Il y a toujours des bagarres, des conflits entre élèves, des bandes qui viennent se venger de n'importe quoi. C'est une minorité de Saint-Denis, de même des lycées qui foutent un peu le bazar, mais il faut régler tout ça, quoi.
Mamadou comprend parfaitement de quoi il retourne.
À vivre au quotidien, de se lever le matin, de se dire il y aura une bagarre dans le train, il y aura une bagarre dans le lycée, devant le lycée, on peut même pas manger à la cantine tranquillement. C'est aussi pour ça que j'ai rejoint la brigade, c'est parce que j'ai vécu ça et que sincèrement c'est quelque chose que je ne souhaite à personne.
Ambre connaît elle aussi ces jeunes des quartiers pour avoir monté pas mal de projets socioculturels avec eux. Elle bascule aujourd'hui vers la prévention et la médiation avec des messages simples.
On est là pour échanger, on n'est pas des policiers, on n'est pas là pour vous arrêter, on est là pour vous. Donc si entre vous, vous n'arrivez pas à vous gérer, ben on va essayer de vous séparer. Puis s'il y a de l'extérieur qui vient, on est là pour vous protéger au mieux.
Permettre aux jeunes d'étudier plus sereinement, c'est au bout du compte l'objectif. La mission de la brigade s'arrête au périmètre des lycées.
Béatrice Duguay. Après 5 mois de crise des gilets jaunes, le président Emmanuel Macron va-t-il renverser la table ce soir ? À la peine dans les sondages, il annoncera à 20h une première série de mesures pour répondre aux attentes exprimées par les Français lors du grand débat. Son entourage promet des changements profonds sur la démocratie et la citoyenneté notamment. C'était l'une des grandes thématiques de ce débat. De nombreuses idées ont émergé sur le sujet et parmi elles, l'une semble tenir la corde, la loi d'initiative citoyenne, Élodie Forêt.
La loi d'initiative citoyenne, nouvelle marotte de La République En Marche, une idée portée par la ministre Marlène Schiappa, présentée fin mars par Stanislas Guérini lors d'un débat de chef de parti sur BFM.
Dès lors que un bon nombre de nos concitoyens veulent s'emparer d'un sujet, 1 million, ça me semble un bon seuil, ils le mettent sur la table. Et à ce moment-là, on prend de nos concitoyens tirés au sort. On les confronte à des experts. On fait une conférence de consensus.
Des citoyens et des experts qui prépareraient ensemble une proposition de loi que le Parlement devrait étudier. Et Juan Balanant, député Modem, avait évoqué cette piste dès l'été. Il prêche pour une co-construction de la loi.
D'avoir la capacité pour les citoyens de participer pleinement au débat et d'être force aussi d'analyse.
Une piste intéressante à condition que les Français comprennent bien le processus. Ce n'est pas un référendum, prévient le professeur de droit public Philippe Blacher, lui, irait au-delà en contraignant davantage le Parlement.
S'il refuse de l'adopter, alors on peut imaginer que le président de la République serait tenu d'organiser un référendum dans les 6 mois.
La loi d'initiative citoyenne, un outil de plus parmi bien d'autres envisagés, comme par exemple la remise à jour du droit de pétition. Il faudra débroussailler tout ça, soupire Erwan Balanant, pour que ce soit clair et appréhendable.
Élodie Forêt. Carlos Ghosn reste en prison. La Cour suprême rejette le recours des avocats de l'ancien patron de Renault-Nissan contre la prolongation de sa détention.
Il est 7h35, Laurence. La Libye en proie à une nouvelle guerre civile.
En cause, l'offensive du maréchal Haftar, le chef de guerre qui contrôle l'est du pays et qui veut reprendre par la force la capitale Tripoli. Depuis qu'il s'est autoproclamé à l'est en 2014, chef d'une armée nationale libyenne, cet homme n'a cessé de monter en puissance au point de faire voler en éclats le processus de paix que tentait péniblement d'installer l'ONU. Une conférence devait d'ailleurs se tenir jusqu'à demain à New York. En lieu et place, la guerre. Et sur le terrain, la situation n'est pas sans rappeler l'horreur que les troupes de Kadhafi ont fait vivre à la population de Benghazi. Cette fois, le scénario se répète sur Tripoli. Ce Français, qui a déjà vécu Benghazi en 2011, témoigne au micro de Maureen Mercier.
Tous les jours, il emmène ses enfants à l'école. Continuer à mener une vie normale malgré les combats, comme si les troupes du maréchal Haftar ne tentaient pas de s'emparer de la capitale. C'est sa manière à lui de se battre. Mais tout à coup, il craque.
C'est un petit peu ému. Pourquoi ? Parce que en 2011, on s'est réveillé un jour et puis on a appris qu'il y avait cette colonne qui avançait vers Benghazi. J'ai ressenti beaucoup de choses.
À ce moment-là, il a eu peur pour sa famille. Aujourd'hui, c'est elle qui a peur pour lui. L'histoire se répète, mais en sens inverse. Les combats ont fait déjà plus de 120 morts, dont bon nombre de civils. Pour cet homme, le maréchal Haftar dévoile enfin son vrai visage.
Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut insérer un modèle militaire, dictatorial, dans lequel on a déjà vécu, on sait ce que c'est. Les gens qui croyaient en Haftar, ils pouvaient faire quelque chose, on a vu le vrai visage. Il faut attaquer les troupes de Haftar, parce que lui ne s'arrêtera pas.
Sa manière à lui de se battre contre Haftar, c'est de s'interdire de fuir la ville, de se battre pour une ouverture démocratique, non pas en prenant les armes, mais en emmenant ses enfants à l'école tous les jours, coûte que coûte. Tunis, Maureen Mercier, France Inter.
L'armement français est bien utilisé dans la guerre au Yémen. C'est une information que révèle ce matin la cellule investigation de Radio France, partenaire du nouveau média d'investigation Disclose. Nous avons pu consulter une note confidentielle du renseignement français transmise à l'Élysée, à Matignon, au ministère des Armées et à celui des Affaires étrangères. Autrement dit, cette information contredit ce qu'affirmaient jusqu'à présent les autorités françaises. On en reparle dans le journal de 8h et c'est déjà à lire sur franceinter.fr. Aux États-Unis, des tornades ont balayé ces dernières heures le sud du pays. Elles ont coûté la vie à 5 personnes, dont 3 enfants. Quand le château de Versailles devient le point de rendez-vous de la France et de la Russie, l'événement s'appelle le Trianon Start-up. Il s'agit de faciliter le dialogue entre les deux pays et surtout que les start-up russes et les grands groupes français fassent connaissance, car la France et la Russie ont tout pour se plaire. Suzanne Chodjaï.
Les groupes français s'intéressent particulièrement aux ingénieurs. En Russie, il y a de très bons informaticiens et le pays met les bouchées doubles sur le numérique. C'est donc une expertise que les grandes entreprises françaises recherchent, selon Emmanuel Kidé, le président de la Chambre de commerce franco-russe à Moscou.
Ils sont extrêmement pointus et ils ont des jeunes qui sont très bien formés. Vous savez, les écoles russes de mathématiques et d'ingénieurs sont des écoles qui sont reconnues dans le monde entier. Donc effectivement, ils ont des jeunes qui sont extrêmement efficaces et qui sont surtout très reconnus. Très très forts en ce qui concerne le spatial, en ce qui concerne le numérique et ils ont des technologies qui sont très développées.
Parmi les grands groupes qui sont aujourd'hui à Versailles, on trouve Air France, Total, EDF, Orange, Renault ou même la SNCF. Bon nombre d'entre elles sont déjà en Russie, le territoire les intéresse. Plus de 600 entreprises françaises y sont, 20 milliards d'euros d'investissement sur le territoire. La France est l'un des pays qui investit le plus en Russie et c'est même le premier employeur parmi les pays étrangers avec 120 000 salariés.
Suzanne Chodjaï. Enfin, un album à écouter absolument après une tournée européenne à guichet fermé. Le rappeur californien Anderson .Paak nous livre son 4e album Ventura. Un casting XXL, un album groovy, parfait pour les pistes de danse. Ce nouveau disque est à l'image du nouveau statut du musicien trentenaire qui sait presque tout faire. Après avoir gagné un Grammy en février dernier avec son titre Bubbling, le revoici avec 11 nouveaux titres dans lesquels on retrouve des pointures Mathieu Curon.
We've been through it all, though it could be worse. We've been moved around in a state of alert.
Anderson .Paak poursuit sa chronique californienne avec aisance. La notoriété lui apporte désormais la possibilité de convier des invités de luxe sur ce nouveau disque. C'est le cas d'André 3000 d'Outkast sur ce premier morceau.
You're all I need, all of me on my knees. Normally harmony, bumblebee, hummingbird. I'm a nerd, study you, what do you, WWF, we...
Parmi les invités prestigieux, on notera la voix de la Motown, Smokey Robinson en personne, qui excelle sur un titre taillé sur mesure.
And it's easier to walk away.
Avec ce quatrième album, Anderson .Paak semble rendre hommage à ses idoles. Ventura est un disque nostalgique, brillant, produit à l'ancienne et dont chaque titre pourrait devenir un classique. Yes, Lord, came a long way from the open mics at Lemur. Forgive me if I walk like I got a chip on my shoulder. Son timbre de voix proche de celui de la star Kendrick Lamar peut parfois prêter à confusion. Un album de plus qui vient asseoir ses talents de producteur pour les années à venir.
Anderson .Paak et son dernier album Ventura. Un mot de football et ce sacre encore retardé pour le Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont même été humiliés hier soir à Lille. Le PSG n'avait besoin que d'un nul pour officialiser son 8e titre de champion, mais il a été écrasé donc par Lille 5-1.
Merci Laurence Thomas.